Et avant d'attaquer la partie sur les gilets jaunes, on va s'écouter une chanson, à savoir on va s'écouter une vieille chanson, peut-être un petit peu moins d'actualité, elle a peut-être été un petit peu plus d'actualité il y a quelques temps, mais c'est une chanson de Jacques Leglou qui était le pseudonyme de... Ah ben voilà, Jean-Pierre Van Game, c'est son comparse. J'ai perdu le nom. Mais en tout cas, c'est une chanson. Donc il est 5 h, Paris s'éveille. C'est une reprise de Jacques Dutronc par Jacques Leglou. Et on va s'écouter ça tout de suite avant de passer au Gilet jaune.
Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les portes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel la chaud au pied, l'arc de triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5 h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Toutes les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans Dieu, sans maître, autogestionnent la cité. Il est 5 h, il est 5 h, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 h, et nous n'aurons jamais
C'était donc Il est 5 h, Paris s'éveille de Jacques Leglou, une chanson de mai 68, qui est un détournement de Il est 5 h, Paris s'éveille de Jacques Dutronc. Et on m'a annoncé dans l'oreillette que Jacques Leglou n'est pas un pseudonyme, ni de Guy Debord, ni de Raoul Van Gogh, mais c'est bel et bien un auteur-compositeur. C'était Jacques Leglou, donc c'était le métier de composer des chansons. On va donc maintenant s'entretenir avec... Françoise et Jean-Pierre sur la question du mouvement des Gilets jaunes. Et je vais donc laisser le micro à Françoise.
Oui, bon, ben, je veux dire d'abord qu'on est partie prenante du mouvement, hein, et que donc on est là pour faire le point dessus avec les membres de cette émission qui sont aussi partie prenante du mouvement.
Alors, on pourrait peut-être commencer par rappeler les caractéristiques du mouvement, tu pourrais.
Oui. Le mouvement des Gilets jaunes, il peut paraître pas évident à définir, parce qu'il est complexe dans la mesure où il a été et il reste divers selon les régions et les villes. De plus, il a évolué au fil des mois, hein, que ce soit dans son rapport à la violence, à la répression policière, à la justice, dans nombre de ses revendications, on va le voir. Et puis, il a surpris tout le monde, et vraiment tout le monde, les médias, les experts, la classe politique, les militants et tout ça, sur plusieurs plans. D'abord parce qu'il était parti des réseaux sociaux et du bouche-à-oreille. Ensuite, parce qu'il ne mobilisait pas, comme d'habitude, on va dire, les fonctionnaires, les salariés des grandes entreprises, de les secteurs comme les cheminots, les agents EDF, les dockers, enfin, donc qui sont des secteurs où il y a les salariés les moins précaires et où les syndicats sont vraiment présents. Et puis ensuite, il a surpris parce qu'il y avait dans ses rangs beaucoup de gens qui n'avaient jamais manifesté ni fait grève. Donc ça n'avait rien à voir avec, par exemple, Nuit Debout, le mouvement en 2016, qui a rassemblé dans chaque ville beaucoup de travailleurs intellectuels de gauche militants. Donc au début, du fait de sa complexité apparente, tout le monde s'est appuyé sur tel ou tel aspect du mouvement des Gilets jaunes pour le rejoindre, le soutenir, le regarder avec circonspection, critiquer, le rejeter plus ou moins violemment. On a cherché en vain à le définir en fonction de mouvements sociaux antérieurs en France ou à l'étranger.
Je pense que là, tu penses au mouvement poujadiste qui avait eu lieu, au mouvement des bonnets rouges, au mouvement des fourches en Italie, au printemps arabe et pourquoi pas plus antérieurement aux jacqueries.
Voilà, on est aussi parti sur les jacqueries. Voilà. On a souligné la présence dans ces rangs au début de petits patrons, hein, artisans et commerçants. Et du coup, la question de son interclassisme a particulièrement agité les milieux militants d'extrême gauche. On se demandait si, en fait, les Gilets jaunes, ce n'étaient pas les petites classes moyennes, parce qu'ils n'étaient pas assez pauvres pour être de vrais prolos, et ils étaient trop consommateurs pour être de vrais prolos, ce qu'on a envie de défendre. Et en plus, ils avaient l'air d'opposer la révolution française du peuple à la révolution sociale du prolétariat, ce qu'on peut traduire en chanson par la Marseillaise contre l'Internationale. Mais en fait, on s'est aperçu assez vite que les petits patrons des commerces ou d'autres entreprises ont vite lâché le mouvement. Et que sa composante majoritaire, c'était et c'est resté des salariés des petites et moyennes entreprises, des petits employés de la fonction publique, des chômeurs, des retraités. Et même s'il y a un certain nombre d'auto-entrepreneurs, par exemple, dans leur rang, souvent, ce ne sont pas des petits patrons, ce sont des gens qui n'ont pas eu d'autre choix que l'auto-entrepreneuriat. Et ils sont souvent subordonnés à leurs clients de la même façon qu'un salarié l'est à son patron. Il y a ce lien de subordination, ils sont très dépendants. Voilà. Donc bref, les Gilets jaunes, ce sont plutôt des gens peu diplômés, qui ont souvent un métier manuel et qui, pour beaucoup, travaillent et payent des impôts, mais qui galèrent vraiment pour finir leur mois, quoi. Donc il s'agit bien d'une large part des classes populaires. Et enfin, le dernier trait marquant qu'on peut souligner, c'est que les femmes sont très nombreuses dans ce mouvement. Elles y sont présentes à la fois comme travailleuses, fréquemment des précaires, qui exercent des métiers les moins payés et qui ont des temps partiels imposés. Et puis elles sont présentes comme mères de famille, c'est-à-dire les personnes qui gèrent les revenus du foyer et souvent qui élèvent seules leurs enfants.
Est-ce que tu peux résumer ce qui a déclenché réellement le mouvement, après avoir parlé des différentes composantes? Qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement et comment il s'est déroulé avec ses caractéristiques jusqu'ici?
Oui, les Gilets jaunes, ils ne sont pas partis de rien. Ce n'est pas une espèce inconnue qui a débarqué sur la Terre. Et leur révolte n'est pas tombée de la Lune non plus. Hein. C'est vraiment une réaction aux politiques économiques qui ont été menées par les gouvernements de gauche comme de droite depuis longtemps, puisqu'en gros, 4 décennies. Et plus exactement, c'est une réaction aux changements que ces politiques ont entraînés dans le salariat et dans l'aménagement du territoire. Il faut rappeler que c'est sous les deux mandats de Mitterrand que le détricotage de la protection sociale et des services publics à la française a commencé. Ce sont les gouvernements dits de gauche qui ont démarré les restructurations industrielles, les délocalisations. Ce sont ces gouvernements qui ont assoupli les conditions juridiques d'embauche et de licenciement, qui ont durci les conditions d'indemnisation du chômage, qui ont abandonné l'indexation des salaires sur les prix, la productivité du travail, etc. Et cette ligne de conduite, elle a été poursuivie par les gouvernements de droite ou dits de cohabitation, avec pour conséquence D'une part, la formation d'une masse grandissante de personnes qui travaillent sous des contrats précaires de toutes sortes, avec des périodes de chômage en alternance. Et d'autre part, la formation d'une masse grandissante d'autres personnes qui, malgré leur travail régulier, s'en sortent elles aussi de plus en plus difficilement. Et pourquoi tout ça ? Pour une bonne part, parce qu'elles sont reléguées dans des zones rurales et périurbaines qui sont actuellement en déshérence du fait que l'État a sciemment laissé dépérir le secteur public au profit du secteur privé. Les hôpitaux au profit des cliniques, par exemple, les écoles publiques au profit des écoles privées. Enfin bon, il y a tout ça. Et ce sont ces catégories de salariés qui ont composé le mouvement des Gilets jaunes pour dénoncer un pouvoir d'achat de plus en plus dégradé par des dépenses croissantes en transport particulièrement, parce que ce sont des dépenses qui sont dues à un éloignement croissant de tout, des lieux de travail, de loisirs, des services administratifs. On voit partout la poste qui disparaît, enfin qui ferme de plus en plus, soit certains jours, soit tout le temps. Les commerces de proximité qui disparaissent aussi. Enfin, dans toutes ces zones comme ça, les gilets jaunes sont fortement présents. Et par ailleurs, la politique menée en grande partie par la gauche quand elle était au pouvoir, elle a creusé un fossé de plus en plus profond entre d'un côté ces classes populaires et de l'autre côté les partis et syndicats qui sont censés défendre les classes populaires. C'est cette politique qui est largement responsable du rejet de toute représentation politique et syndicale que les Gilets jaunes n'ont jamais cessé de manifester par peur de voir leurs revendications trahies.
Oui, il faut signaler quand même que les représentations syndicales, ça fait déjà pas mal de temps qu'elles avaient abandonné ou qu'elles ne tenaient plus compte de cette partie du prolétariat dont tu parles. Les centrales syndicales, elles étaient surtout représentées dans les villes et dans les grandes entreprises où elles s'attachaient plutôt à défendre les emplois garantis, les CDI, plutôt que les emplois précaires.
Voilà, et cette situation est vraiment très, très forte. Enfin, le hiatus entre les syndicats et ces classes populaires est vraiment marqué très fortement. Donc je crois que c'est ça les facteurs qui sont à l'origine de la colère sociale actuelle. Mais alors plus récemment, il y a eu deux éléments qui ont contribué à alimenter cette colère. Il y a eu d'une part l'échec de nombreuses mobilisations sociales qui étaient sur le mode défensif, et des mobilisations qui se sont succédées ces dernières années. On pense au mouvement des retraites en 2010, mouvement contre la loi travail en 2016, les cheminots en 2018. Et dans ces mobilisations qui ont été toujours plus réduites, les grèves ont eu de moins en moins d'impact et les syndicats, les appareils syndicaux, ils ont été davantage préoccupés par leur survie que par la lutte. C'est ça, en tout cas, l'impression qu'ils ont tout à fait donnée. Et d'autre part, il y a eu, depuis l'élection de Macron en 2017, l'adoption par le gouvernement de plein de mesures antisociales. On a eu l'abolition de l'ISF, la pérennisation du CICE.
CICE, il faut préciser que c'est un allègement de cotisation qui profite évidemment au plus grand groupe, des cotisations patronales qui profitent au plus grand groupe.
Voilà. Il y a eu aussi la baisse des APL, des allocations logement, l'augmentation du taux de CSG pour les retraités, la casse du statut des cheminots, la réforme de l'accès à l'université. Bref, des tas de mesures qui n'ont pas provoqué la réaction qu'on aurait pu attendre, espérer. Et puis soudain, il y a eu cette explosion sociale, là, après l'annonce fin octobre d'une énième augmentation du prix des carburants.
Oui, faut signaler à ce propos que, contrairement à ce qui a été prétendu, l'augmentation de la taxe carbone n'avait absolument pas pour objectif, n'avait pas d'objectif écologique. C'était simplement pour compenser, au niveau du budget, la pérennisation du CICE, dont on a dit tout à l'heure qu'elle profitait aux grands groupes.
Voilà. Et du coup, le mouvement des Gilets jaunes a éclaté et il a connu en gros deux périodes. Il y a eu jusqu'en début d'année 2019 l'occupation des ronds-points où les Gilets jaunes ont développé une solidarité, une convivialité qui a été soulignée parce que c'était vraiment remarquable et où les mots d'ordre demandaient souvent moins d'impôts et de taxes. Alors bon, les médias parlaient de grogne fiscale. Bon. Et puis ensuite, il y a eu une évolution au niveau même de la composition des Gilets jaunes. Il y a une évolution vers une protestation sociale plus traditionnelle, dans la mesure où il y a eu une présence de plus en plus marquée dans les manifs des samedis, là, les fameux actes, une présence de plus en plus marquée des militants d'extrême gauche, pas mal de libertaires, mais bon, aussi des gens de Sud, de la France Insoumise, du NPA, voire d'Attaque, là, depuis quelques temps. À Paris particulièrement. Et puis, les revendications ont souvent demandé davantage une hausse des minima sociaux, du SMIC, des petites retraites.
Il faut dire aussi que depuis le début de l'année, par endroit, il y a des jonctions qui ont eu lieu avec d'autres mobilisations. On pense en particulier à la marche à la journée du 8 mars des femmes, aux marches pour le climat, certaines manifs syndicales. On a l'exemple de la Gay Pride à Toulouse. Mais à chaque fois, les Gilets jaunes ne se sont pas laissés absorber ni enfermer dans ces mouvements qu'ils rejoignaient. Ils ont toujours gardé leur singularité et, je dirais, leur autonomie.
Voilà, on peut dire qu'ils ont continué d'être autonomes, vraiment, que ce soit dans leurs moyens de communication ou dans leur mode d'apparition. Et dans le même temps où ils suivaient cet agenda militant français. Voilà. Mais maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que le mouvement subit depuis décembre une très féroce répression, sur laquelle on reviendra un peu plus loin. Et beaucoup de Gilets jaunes ont découvert à cette occasion, avec un certain effarement, hein, en luttant, la réalité du système en place, et en premier lieu, ce qu'implique le maintien de l'ordre, à savoir la répression policière et judiciaire. Et c'est cette peur d'être confronté à cette violence gouvernementale qui explique en grande partie pourquoi les mobilisations du samedi ont faibli.
Donc on va faire une pause musicale. On va donc s'écouter encore une reprise. Je crois que c'est une émission sous le signe de la reprise. Mais on va donc s'écouter Gilets jaunes de Thomas Gattan, qui est une reprise de Joli Môme. Je ne sais plus qui est le...
Léo Ferré.
De Léo Ferré, voilà. Donc on s'écoute ça, Gilets jaunes de Thomas Gattan.
Roi reclus dans sa bulle, dans la rue c'est la foule, gilet jaune. Spectateurs, levez-vous, il est l'heure du grand nous, gilet jaune. C'est l'éveil et l'élan, c'est le sel constituant, gilet jaune. T'as compris, t'as raison, ce vieux monde est fini, gilet jaune. Il est l'heure du printemps, le meilleur carburant. Quand on ose lutter, que l'on ose en entier, gilet jaune. Au rond-point des soleils, le matin qui se lève, quoi qu'il vente, on est bien, tous ensemble on s'étreint, gilet jaune. Vos blindés sont têtus, comme un monarque est nu, gilet jaune. Nous les riens, on est pour un grand choc à la source, gilet jaune. Vos barrières et vos trous, on voit faire, on sait tout, gilet jaune. Si la tête à Macron t'épouvante, macaron, gilet jaune. Il est l'heure du printemps, le meilleur carburant, c'est de croître tout autour, car le pouvoir reste sourd, gilet jaune. Au rond-point de nos vies, c'est demain qu'on saisit, c'est la démocratie contre la faux du mépris, gilet jaune. Y a des airs, mitraillettes de taser, c'est la fête, gilet jaune. Ils attisent la peur, mais n'abîment notre honneur, gilet jaune. On rembourse leurs vœux pieux, on veut tous vivre mieux, gilet jaune. Sans escorte en col blanc qui escroque les gens, gilet jaune. Nous les pauvres, nous le peuple, on se sauve de ces leurs. C'est la flamme ravivée que condamnent les poudrés, gilet jaune. Le bon œil d'un homme sous l'écueil d'un flashball, on le voit, on le sait, et le roi est cerné, gilet jaune. Roi reclus dans sa bulle, dans la rue, c'est la foule, gilet jaune.
Pulsar, je t'aime.
Si tu me parles en serrant tes cuisses sur mes oreilles, j'entends rien.
Pulsar.